11h33, tous les lundis maintenant, on reçoit un expert et je suis très heureuse qu'elle ait pu accepter de venir à l'émission pour la prochaine demi-heure. Docteur Christiane Laberge, bonjour.
Bonjour, Catherine.
Médecin de famille à la retraite. Maintenant, c'est comme ça qu'on
À la retraite du bureau.
Oui, on va dire ça comme ça.
Encore avec sa licence, encore avec son intérêt, encore avec sa curiosité, mais avec plus de patients à suivre sur une base régulière.
Ça se passe comment? Depuis quelques semaines?
Ben, en fait, tu sais très bien que ça finit jamais carré parce que tu as toujours des prises de sang, des rapports qui rentrent. On téléphone aux patients, des fois on les revoit, puis tout ça. Donc on ne peut pas couper carré, mais en fait, j'ai délaissé la pratique quotidienne. Non.
Et Christiane, on va parler d'un sujet qui peut quand même être particulier. On dit l'été, est-ce qu'on peut vraiment faire de la fièvre? Ça, on va en parler durant l'hiver, un petit peu de fièvre, les petits bobos, mais la fièvre en été, ça existe et il y a plein de choses qui peuvent être dérivées de ça.
Absolument. La fièvre, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Mm-hmm. C'est la façon dont ton corps, en général, va réagir pour se débarrasser des virus, des bactéries, des infections en général. On peut faire de la fièvre. Cette fièvre-là, elle est déclenchée par ton cerveau qui dit attaque, attaque, attaque. Je monte la température parce qu'en général, les virus détestent la chaleur. C'est pour ça qu'on en a moins en été qu'en hiver. Et on va leur donner un coup de barre. On va sortir l'armée, les lymphocytes contre les globules blancs type viral, les globules blancs type bactérien, les anticorps. Tout le monde est d'attaque quand on commence la température élevée. Parce que tu sais, les gens vont dire « Ah, moi, je fais pas de température ». J'avais un professeur qui m'avait ramassé dans une tournée devant tout le monde en disant « Docteur, un patient fait de la fièvre, mais il fait toujours de la température, même mort celle de la pièce. » Alors, on fait de la fièvre.
Ça fait de la fièvre.
La fièvre, elle est déterminée par une augmentation de ta température corporelle normale. En général, on dit chez les adultes 37,5 buccal, les enfants 38 rectal, parce que les enfants ne sont pas capables de tenir le thermomètre comme il faut. Mm-hmm. De telle sorte que ça, c'est la moyenne. Mais il y a des gens qui, naturellement, ont 36 de température normale. La température des gens, c'est pas compliqué. On prend un thermomètre et tout le monde devrait avoir un thermomètre à la maison. Ouais. Quand on voulait gagner des cafés à l'urgence, on gageait sur le degré de température du petit. Puis on perdait. Fait que celui qui perdait, qui était le plus loin au feeling, évidemment, en touchant l'enfant, en regardant tout ça, bien, celui qui perdait payait le café. Alors, pour te dire qu'il n'y a pas de critères en général pour dire tu fais de la fièvre ou tu n'en fais pas, tu prends le thermomètre et à ce moment-là, tu as ta température réelle.
Mais tant qu'on n'a pas le thermomètre, on peut sentir fiévreux. On peut avoir des symptômes, un petit mal de tête.
Exactement.
Puis des fois, on va se toucher.
On va se toucher, puis on va être chaud, puis on va avoir froid, puis on va avoir les mains glacées, on va avoir une sensation. Mais il faut dire qu'une attaque virale va te donner ça aussi. Une attaque virale va te donner en général, quand on parle de la grippe, par exemple l'influenza, ça va te donner un début brusque. À 3 heures, t'es belle, 3 heures et demie, tu veux mourir. Avec douleur musculaire, mal de tête, fièvre, fatigue importante. Tu irais te coucher en dessous de ta doudou avec ta robe de chambre en plus, là, tellement t'es frileuse. Puis après ça, tu vas avoir trop chaud. Puis ça, c'est une attaque de type beaucoup plus virale qui va te donner ça. En été, on peut avoir le virus du Nil. Si tu as été piqué par un insecte qui t'a transmis le virus du Nil, la majorité des gens ne le verront pas passer. Ils vont l'avoir puis ils ne le sauront pas. Mais il y a une petite proportion qui va avoir ce qu'on appelle un syndrome d'allure grippale. Donc, il va avoir ces petits symptômes-là, ces moyens symptômes-là. Et il y a des gens qui vont avoir plus que ça, une très petite proportion, vont avoir un mal de tête qui va être plus important, vont avoir de la confusion, de l'irritabilité, des convulsions, vont avoir des signes d'encéphalite ou de méningite. Et ça, on s'entend que c'est l'état général de la personne qui va dire si c'est une fièvre ou il faut consulter rapidement, si on exclut les bébés en bas de 6 mois. Et les personnes âgées font moins de fièvre que les gens adultes.
Pourquoi?
Qui en font. Notre système ne réagit pas de la même façon. Donc, une grand-maman de 80 ans qui va faire 37,5, je te dirais que c'est l'équivalent de 38,5 chez un adulte de la quarantaine, et c'est 39 chez un enfant. Donc, ça peut être des températures équivalentes. Donc, il faut aussi, chez les gens qui sont sous cortisone tous les jours, qui prennent de la prednisone tous les jours pour des maladies inflammatoires, les anti-rejets, les gens qui sont traités en chimiothérapie, qui ont une immunologie plus basse, une immunité plus basse que les autres, la moindre fièvre, il faut consulter parce qu'eux, ils ont des anti-inflammatoires et des anti-réactions. Donc, ils ne peuvent pas avoir l'adaptation de leur système pour se défendre. Alors, eux doivent consulter plus rapidement.
Mais quand on consulte, bon, des fois, on se sent pas bien, mais pendant combien de jours je peux pas me sentir bien puis que c'est quand même correct que la fièvre
dans une grippe,
baisser,
par exemple, la grippe d'hiver, on va avoir 3 jours en général de symptômes de ce type-là. Et souvent, la deuxième journée, tu vas avoir ton mal de gorge, ton nez qui coule, ta toux qui va commencer. Puis ça va dépendre du cocktail de la grippe de cette année. Parce que des fois, tu as beaucoup de mal de gorge, un petit guedille, puis pas beaucoup de toux. Des fois, ça va être cette année, la toux durait 3 semaines, puis elle tombait d'un coup sec. Alors, tu as des variations dans le patron de l'expression de la grippe, mais en général, on tolère chez l'adulte 3 jours en général. L'autre chose, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre tout de suite de l'acétaminophène pour faire baisser la fièvre. En quelque part, si on peut se permettre d'avoir de la fièvre, puis on peut se permettre de se reposer, ce sont tes meilleurs traitements. Mais évidemment, avec un enfant, il a l'air bête quand il fait 39 de fièvre. Mmh. Il est effoiré, il ne boit pas, il ne mange pas. Là, tu veux dire, oh, y a-t-il quelque chose en dessous de ça que je devrais traiter? Là, tu lui donnes son antipyrétique, son antifièvre. Et là, l'enfant, une heure après, pète le feu ou presque. Il a retrouvé son élan. Fait que tu peux être sûr que s'il a retrouvé son élan, il a recommencé à manger, il a recommencé à boire, c'est bien important parce que tu te déshydrates quand tu fais de la fièvre, hein, tu perds de l'eau. À ce moment-là, c'est important aussi d'avoir une bonne hydratation et de voir si tu as l'air bête ou tu n'as pas l'air bête. C'est ton état général.
Oui, c'est ce qui fait en sorte qu'on va avoir de bons signes.
Exactement,
aussi,
que tu vas consulter ou pas.
Ben, l'été, il y a plein de choses. On parlait de fièvre, virus aussi.
Ouais.
On va beaucoup dans les piscines.
Les gastro.
Les gastro. Là, il fait chaud, fait on se baigne. Est-ce qu'on peut attraper des virus dans les piscines publiques, les piscines privées?
Oui, parce que tu es proche du monde. Alors, l'enfer, c'est les autres, on le sait. C'est les autres qui te donnent des infections en grande majorité. Alors, c'est pas nécessairement général d'avaler de l'eau. C'est parce que les piscines sont assez bien contrôlées.
Oui.
Donc ça, non. Les grandes plages, tu sais, comme le Oka et compagnie, en général, sont contrôlées aussi quand il y a trop de colis, ils vous enlèvent de là. Dans les lacs, ben, les grands lacs, tout ça, il y a un certain contrôle, mais c'est un petit peu moins parce que le lac, tu ne peux pas le désinfecter, tu peux pas. Alors, ça, les lacs, c'est un petit peu plus à risque, mais quand même pas tellement à risque. Ça dépend s'il y a des animaux qui défectent dans le lac.
Okay.
Alors, à ce moment-là, tu pourrais avoir théoriquement dans les ruisseaux aussi.
Mais y a-t-il
des
protections
infections
à y avoir, à part on n'arrive pas avec notre petit contenant pour
boire
analyser?
L'eau. Puis boire l'eau. Tu prends pas la grande tasse. Tu peux-tu prendre un bouillon? Oui, parce que tu vas le recracher, mais en général, tu ne vas pas boire l'eau du lac comme ça, si tu ne connais pas. Tu ne vas pas boire l'eau du ruisseau non plus si tu ne connais pas quels sont les animaux en amont qui peuvent avoir des contacts avec. Parce qu'il y a quand même, les animaux sont porteurs de certaines zoonoses. Et c'est des choses rares, mais quand même, quand ça arrive, c'est désagréable.
Et pour les intoxications alimentaires, ça, on en voit aussi beaucoup parce qu'il fait chaud. On laisse les aliments trop à la température.
Absolument.
À 35 degrés, une bonne sandwich avec de la mayonnaise, hein, on laisse pas ça longtemps.
C'est ça. Fait que, évidemment, c'est celle qui est oubliée, puis t'as quelqu'un qui la ramasse, puis il sait pas depuis combien de temps. L'autre chose, c'est que dans les intoxications alimentaires, t'as la bactérie qui va causer l'intoxication, mais c'est pas la bactérie qui va te faire du tort, c'est la toxine. Alors, tu vas être obligé de la déféquer et de la vomir. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça que tu vas guérir de ton intoxication alimentaire. Alors, il ne faut pas que tu prennes l'imodium dès que tu as une selle diarrhéique, là. Il y a un processus. C'est clair qu'il ne faut pas que tu te vides non plus, que tu en aies 12-15.
Non, mais c'est ça,
t'sais,
la phase. C'est quoi
une logique.
Le barème.
Le principe, c'est qu'il ne faut pas que tu te déshydrates. Il ne faut pas que tu te mettes à terre. Donc, oui, on peut prendre des antinauséeux, des anti-vomissements. On peut prendre des anti-diarrhées. Tu sais, tu es dans le sud, puis il faut que tu prennes l'autobus jaune pour te rendre à l'aéroport. Ben oui, peut-être que tu vas prendre un Imodium. Puis avant de prendre l'avion, parce qu'il va y avoir des poches d'air, des turbulences, puis tu pourras pas te lever. Fait que oui, tu pourrais prendre un Imodium. Mais dites-vous que quand on prend ça, si on est en mode d'évacuation des bactéries ou des virus, ben on va être à ce moment-là à durée plus longue, parce que tu t'en débarrasseras pas.
C'est pas comme ça, là. C'est pas,
comme ça. Tu te prives du mécanisme d'évacuation. Mais il y a une question de relation. C'est sûr que si tu as 6-8 selles, tu prends un Imodium. Mais si tu en as juste une ou deux, l'autre chose, c'est que tu peux avoir aussi, tu sais, c'est le temps des cerises, hein? Ils sont bonnes de ce temps-là, les abricots aussi, hein? Fait que tu as compris ce que je voulais dire.
Oui, tu sais.
Bon.
Pas besoin de dessin. On comprend.
Puis on demande aux autres aussi s'ils ont été atteints.
Oui.
Parce que ça, les gens, on va au restaurant, on mange ensemble, puis on s'appelle 2 jours après, puis « Hey, je t'ai eu une diarrhée du tabarnouche pour moi, les enfants, au party, puis tout ça. » Puis là, tu te rends compte qu'il y a 4-5 personnes dans le même restaurant qui ont mangé la même affaire. Bien, vous appelez la santé publique, puis vous dites, on est allé manger à tel restaurant hier, tati, tata. C'est pas contre le restaurant, c'est pour aller chercher les aliments qui sont peut-être contaminés à l'insu du restaurateur aussi, là.
Mais ça prend combien de temps avant que ça... Parce que des fois, on a l'impression que ça peut être soit très, très, très vite, d'autres fois, ça peut être plus...
C'est dans les 6 à 36 heures, grossièrement, une intoxication.
Autant que ça? Ouais. Ah oui, je pensais que c'était beaucoup plus rapide.
En général.
Oui.
Mais tu sais, je te dirais, la moyenne, c'est 12-14.
Puis c'est quoi la différence entre une intoxication et une allergie alimentaire?
L'allergie alimentaire, c'est beaucoup plus rapide que ça en général, parce que l'allergie, c'est vraiment tes tissus qui enflent. Donc, en général, ça va commencer par des nausées, vomissements, puis après ça, des diarrhées. Mais une fois que tu as... Ça va durer ça aussi en général quand tu n'es pas très allergique. C'est tu te débarrasses de l'aliment et plus rapidement tu te débarrasses de l'aliment, plus rapidement tu te sens bien.
C'est fini après.
Ouais.
Ben, on continue avec la docteure Christiane Laberge dans les prochaines minutes. 514-790-9850 1-866-790-9850 pour nous joindre. Docteure Christiane Laberge, médecin de famille, est avec nous pour répondre à vos questions et répondre également à tous ces petits bobos qu'on peut avoir durant l'été. On parlait de la fièvre parce que oui, on l'a vu, c'est possible d'avoir de la fièvre. Et on a des questions des auditeurs. Il y a Sarah qui se demande, est-ce qu'il y a un virus plus problématique cet été que d'autres?
Non.
Bon, parce que des fois, il y a
c'est
des étés qu'on a...
C'est toujours la même affaire. Ouais. Toujours la même affaire. C'est clair que il faut regarder au niveau de la peau là, avec les tiques cette année. Les gens qui restent à Montérégie, Estrie, etc., il y a des zones qui sont plus problématiques. On va sur le site de la santé publique, on regarde les scores et on regarde combien de moustiques ou de tiques seront contaminés avec la bactérie. Et à ce moment-là, il faut toujours surveiller. Donc, la surveillance devient plus aiguë que le traitement de la maladie actuellement.
Et la différence entre viral ou bactérien?
Le virus, c'est une petite particule contre laquelle on n'a aucun traitement. La grippe, on n'a pas de traitement. Le rhume, on n'a pas de traitement. Le virus du Nil, on n'a pas de traitement. Donc, les virus, on n'a pas comme tel de traitement. On attend que ça passe. Et si le virus, par exemple, attaque de façon très méchante, on va offrir ce qu'on appelle du support. Si tu n'es pas capable de manger avec ton virus pour quelque raison que ce soit, on va te nourrir avec des intraveineuses, on va te nourrir d'autres façons. Tu as une encéphalite, on va supporter. Je parlais tantôt des cas extrêmes du virus du Nil où les gens peuvent avoir des convulsions, ben on va te donner des anticonvulsivants. On va pallier aux symptômes que tu as. Mais on n'a pas de traitement spécifique en général pour les virus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de vaccination contre les virus, parce que c'est un de nos seuls moyens contre les virus.
Ah, on va prendre d'ailleurs quelques appels. Il y a Linda qui est avec nous. Bonjour.
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 Moi, bonjour. J'aimerais juste savoir, ma fille, 19 ans, fait de la fièvre depuis 2 jours. Là. Hier matin, c'était 40,5 degrés. Ce matin, 39, là, je la fais descendre en donnant des Tylenol puis des Advil. Est-ce qu'on doit consulter ou on attend quelques temps?
En général, je ne me base pas du tout sur l'histoire de votre fille. Je la connais pas, je l'ai pas examinée, puis je connais pas ses antécédents, puis on va pas rentrer là-dedans. En général, une adulte qui a une fièvre à 40, on surveille d'un peu plus étroitement. On regarde si la personne mange, si la personne boit, si la personne est très fatiguée, c'est quoi son état général. Si elle a un gros mal de tête, puis elle a l'air très malade, puis qu'avec le Tylenol ou avec l'Advil, ça baisse de peut-être à 39, mais elle continue, entre guillemets, d'avoir l'air aussi bête, là, on peut consulter, c'est ça. 40, c'est un peu haut pour une fille, à moins qu'elle ait d'habitude la tendance à faire beaucoup de fièvre personnellement. Mais en général, après 48 heures, on est justifié de consulter. Dans la température moyenne, dans la fièvre moyenne 38,5, où on voit que la personne a de l'énergie, où on voit que la personne est pas très malade,
est capable de fonctionner,
là, oui, on peut temporiser. On va regarder ce qui va sortir. Mais c'est toujours de regarder, d'observer ce qui va sortir. Si elle a des douleurs au ventre, des douleurs à la tête, on consulte.
Oui, puis c'est des segments aussi.
Des segments, sait, des choses, des diarrhées qui ne rentrent pas dans l'ordre. T'sais. Bon, on voit que la personne est en danger de se déshydrater, de diminuer son état. Il faut consulter.
Mais quand on dit consulter, on appelle tout d'abord le médecin de famille?
Théoriquement, on appelle le médecin de famille pour avoir un examen. Deuxièmement, on peut toujours recourir à notre groupe de médecine de famille aussi, parce que même si c'est pas notre propre médecin, on peut avoir quand même recours. On peut avoir des systèmes comme Bonjour Santé. Et dans des cas où la personne a un état général qui est diminué, qu'on a une température à 40 qui se maintient, on descend jamais en bas de 39 à 48 heures avec des Tylenol puis des Advil, on consulte à l'hôpital parce que c'est clair que cette personne-là va avoir besoin de prise de sang. à moins que notre CLSC soit comme celui de Passepébiac, un presque hôpital.
Ouais. Question d'ailleurs de Chloé qui nous demande, est-ce que c'est dangereux d'avoir un streptocoque?
Ben, le streptocoque, si on l'a dans la gorge actuellement avec un gros mal de gorge puis qu'on est symptomatique, on va le traiter aux antibiotiques. Donc, théoriquement, on devrait l'enlever de notre site d'infection. Ça dépend où est-ce qu'il est. Mais quelqu'un qui est porteur sain, il y a des gens qui sont porteurs dans leur gorge de streptocoque sans avoir aucun symptôme. Mais on le laisse là. On n'est pas capable de l'éradiquer. Si la personne n'a pas de symptômes, souvent, on va le laisser là.
Puis les symptômes, c'est quoi? C'est un mal de gorge?
Mal de gorge, oui. Ouais. Ouais, tu sais, quand tu as un streptocoque problématique, tu as de la fièvre, des frissons, mal à la gorge, ça fait plus que 3 jours, tu n'as toujours pas de nez qui coule, tu n'as toujours pas de tout. Là, au bout de 3 jours, on suggère de consulter, on va faire une culture de gorge. Puis à la culture, on va te dire si c'est un virus, parce que tu peux avoir une mononucléose si tu as 18 ans.
Ouais, hein? Oui.
Alors, tu peux avoir, à la prise de sang, on va dire, oui, tu as une mononucléose et ta gorge, même si tu as mal, c'est un virus, c'est pas une bactérie. Donc, ça nous évite de donner des antibiotiques pour rien. Parce que tu sais que quand on donne de l'amoxyl à quelqu'un qui a mal à la gorge, un adolescent, par exemple, qu'on se doute que ça peut être un streptocoque versus une mononucléose, dans la mono, on lui donne de l'amoxyl, il peut faire un rash puis il va porter l'étiquette d'allergie à l'antibiotique. Alors qu'il ne l'est pas, c'est un rash de mononucléose. Alors, on y va pédale douce, mais après 3 jours, dans une fièvre modérée, on peut regarder avec le mal de gorge pour voir s'il n'y a rien de sorti. Parce que le rhume ou la grippe, ça va te donner souvent un mal de gorge en début. Puis après ça, rapidement, tu vas avoir les autres symptômes. Oui.
On continue de prendre vos appels. Il y a Kenny qui est avec nous, qui a une question d'ailleurs sur les virus. Bonjour, Kenny.
Oui, bonjour. En fait, la docteure Laberge m'a enlevé les mots de la bouche. Parce
que c'est pas hygiénique, ça.
La semaine dernière, j'ai eu exactement ça. Je suis allé voir mon médecin. J'avais un mal de gorge. Il m'a tout de suite donné des antibiotiques. Après 3 jours, finalement, lui, il pensait que c'était un streptocoque bactérien. Finalement, après 3 jours, les antibiotiques ne m'ont rien fait à part me donner des plaques rouges sur mon corps parce que j'ai découvert que j'étais allergique à ces antibiotiques-là. Donc, ça s'est avéré un streptocoque viral. J'ai eu ça pendant 10 jours. C'était épouvantable. J'avais la fièvre la nuit.
Avez-vous eu une prise de sang pour éliminer une mononucléose?
Oui.
J'étais
au CHUM.
C'était pas ça.
J'ai fait des cultures de gorge.
Parfait.
J'ai fait prise de sang. On m'a tout fait.
Ouais.
Donc là, ils pensent que c'est un streptocoque viral. Mais
non, un streptocoque, c'est pas viral. Un streptocoque, c'est une bactérie. Puis le virus, c'est le virus. Le streptocoque, au bout de 48-70 heures, c'est ça. Parce qu'au bout de 48-70 heures, la bactérie, elle est partie. Le mal de gorge, c'est terminé. Donc, si ça persiste plus que 48 heures, 48-72 heures, mais que ça diminue pas au moins de 50% dans les 48 heures, c'est probablement pas bactérien, c'est beaucoup plus viral. Puis à ce moment-là,
c'est ça que je pensais. Mais au départ, je pensais que c'était un rhume ou une grippe.
Ouais.
Parce que c'est souvent le mal de gorge qui entend ça.
Ouais. C'est pour ça qu'on attend 48 heures.
Le mal de gorge, puis la fièvre la nuit.
C'est ça qu'on attend 48 heures avant de consulter. 48-72 heures dans un mal de gorge pour consulter en général, à moins que vous ne soyez pas capable d'avaler. Mais parce que c'est la suite qui va nous dire si c'est viral ou bactérien.
Oui. Puis là, Kenny, tout va bien?
Oui.
Oui, là, ça va bien, mais je ne sais pas si c'est un relent de ce virus-là. Mais là, j'ai une toux, là, mais ça va bien.
Bon, ben. On va vous laisser aller en priant que la route soit bonne après.
Exactement. Merci beaucoup, Kenny. Mais ça m'amène à la question de la mononucléose.
Ouais.
Ça fait une couple de fois qu'on en parle, mais ça soigne de quelle façon? Parce que moi, je me rappelle jeune, j'ai
déjà traite par le repos, ma chère.
Ben, c'est ça.
C'est le repos, le repos. Écoute, jeune, là, elle se couchait sur son lit pour monter sa fermeture éclair de jeans.
Oui.
Puis elle tombait endormie. Sa journée était faite. Donc, ça peut. Tu sais, des fois, on blague, là, pour dire, elle lève sa brosse à dents, sa journée est faite.
Oui.
Ça peut être d'une fatigue comme ça, extrême, mais ça dure 4 à 6 semaines. C'est un virus qui s'appelle Epstein-Barr et qui va te donner pendant 4 à 6 semaines. Au début, c'est très, très important, mal de gorge, fièvre, malaise. On consulte après 48-72 heures en général. On fait les prises de sang, on regarde ça, on fait la culture de gorge. On dit, ah, c'est une mononucléose. Donc, tu vas en avoir pour 4 à 6 semaines à être fatigué. Puis, la tradition disait, chaque heure que tu vas pousser ta machine, bien, ça va te prendre 6 heures pour attraper. Fait que tu es aussi bien de te reposer. Tu fais des petites activités. Par contre, on sait qu'on peut avoir une mono à partir de l'âge de 10 mois. Mais ça paraît pas parce que les enfants sont plus intelligents que nous autres. Ils sont fatigués, ils dorment. Alors souvent, ça passe plus vite chez les enfants.
Mais est-ce qu'il y en a plus chez les ados?
Ben, on appelait ça le kissing disease, parce qu'ils disaient, mon Dieu, comment est-ce qu'ils attrapent ça? Mais on sait que c'est pas aussi contagieux que ça parce qu'il y aurait une grande proportion de la population, 70% de la population, qui serait déjà atteint et qui aurait déjà les anticorps.
Et là, il faut parler de la rougeole rapidement parce que cet été, on en a beaucoup parlé. Il faut faire attention. On surveille quoi?
La vaccination, le carnet de vaccination, on commence par ça. Deuxièmement, on regarde si on a de la fièvre, mal de gorge, si on a des malaises, la conjonctivite. Hein, ça donne les yeux rouges qui coulent, qui sont dégueulasses. Tu as l'impression de pleurer ta vie. Et ça, souvent, tu vas consulter quand tu vas avoir tes plaques. Mais malheureusement, tu appelles avant pour dire « j'aimerais ça confirmer que c'est une rougeole ». Et là, tu vas avoir à sortir tout ton itinéraire et ton GPS pour savoir où est-ce que tu es allé parce que c'est hyper contagieux. T'éternues et juste ton éternuement va précipiter les gouttelettes. C'est des gouttelettes fines comme une pulvérisation et c'est ça qui est contagieux.
À surveiller. Christiane Laberge, grand, grand plaisir. Merci, docteur, d'être venu nous voir à l'émission. On se reprend d'ici la fin de l'été. C'est trop intéressant. On a trop de questions, d'ailleurs, au milieu de la santé. Quant à nous, moi, je vous souhaite de passer un très, très bel après-midi. On est là demain, 10h, sans faute. Bonne journée.